Et on a le grand plaisir d'accueillir François Simon Fustier, Tonospédia. Donc on est enchanté de vous avoir.
Merci. Où est-ce que j'appuie pour faire un... c'est parfait. Donc moi je suis très honoré d'être ici parce que je change complètement de catégorie par rapport à tous les gens qui sont là. Moi je suis bac moins 2. Donc voilà. Le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui est né dans mon atelier. Et Constantin, avec lequel je collabore, qui est le vice-président de l'Université de Grenoble, maintenant il présente le truc en disant ben, « François ne savait pas que ce n'était pas possible, alors il l'a fait ». Et en fait, c'est vraiment ça. Donc depuis un certain nombre d'années maintenant, je suis un peu comme un gamin dans un magasin de jouets, et je dis « est-ce qu'on pourrait pas faire tel truc ?» Et puis il y a un gars du CNRS qui dit « J'ai besoin de ça pour mes élèves. » Donc aujourd'hui, le projet regroupe... On fonctionne vraiment comme sur le principe d'un projet scientifique. Quelquefois, on monte une structure, quelquefois, on n'en monte pas, etc. Mais aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui travaillent autour du projet, en France comme à l'étranger. Et on fonctionne... Je ne sais pas, l'intervenant précédent parlait de financement au travers du PNV, effectivement, c'est un truc qu'on utilise. Donc, hop, voilà. Donc, on est sur un projet, nous, qui est à but non lucratif. C'est ce qui fait qu'on peut avoir, justement, tous ces laboratoires de recherche qui viennent travailler avec nous. Et l'idée de départ, c'est ça.
Depuis quatre générations, ma famille entretient et protège le patrimoine horloger privé ou historique. Malheureusement, le métier tel qu'il est pratiqué dans les ateliers comme le mien n'est plus enseigné. Si rien n'est fait, dans 15 ans on parlera d'archéologie horlogère et les rares sources resteront des ouvrages comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le titre de maître d'art impose des responsabilités, celle de transmettre le savoir-faire et de le préserver. Depuis 10 ans, mon atelier crée des jumeaux numériques de mécanismes anciens pour aider à la restauration, la formation et la médiation culturelle. Aujourd'hui, avec l'Université Grenoble-Alpes et le soutien de l'AFA et des musées français et suisses, nous commençons de créer Chronospédia, première encyclopédie virtuelle de l'horlogerie ancienne, accessible en open source. Le temps passe, contribuez à le sauver.
Donc en fait, le constat de départ, c'était de se rendre compte qu'au niveau de l'horlogerie, aujourd'hui, toute la formation est axée sur la montre, c'est là où il y a une employabilité, et toute la partie pendule, horloge et horloge d'édifice, qu'on appelle le moyen et le gros volume, sont pratiquement plus enseignés et sont surtout très 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 mal documentés. Donc moi j'ai essayé au niveau de mon atelier, à partir de 2014, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec des modèles 3D. C'est fantastique, c'est super intéressant. Ça c'est par exemple l'horloge de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui n'avait jamais été réalisée. Hop, pardon, je vais trop vite. Voilà. Tac. Ça, c'est ce qu'on a fait pour Vaux-le-Vicomte. Il nous avait demandé en une minute... Ça se lance ou pas, du coup? Là, on avait une minute pour expliquer aux visiteurs le lien qu'il pouvait y avoir entre le mécanisme sur lequel on était intervenu et l'interaction que ce mécanisme avait avec les cloches. Donc, grâce au modèle 3D, on a pu créer une animation en s'affranchissant complètement de ce qu'on aurait pu faire avec une caméra, pour expliquer qu'il y a une cloche qui est complètement en haut, qu'il y a un mécanisme qui est ici, qu'il y a une pièce qui tourne à toute vitesse, là, qui est le volant, et puis qu'on arrive à l'intérieur du mécanisme où on a des poids qui sont attachés au bout de câble. Là, on a un système d'échappement qui va réguler la force, qui la transmet à un axe. Cet axe, il fait un tour sur lui-même en une heure. On le transporte tout le long du bâtiment jusqu'au cadran final. Et au niveau du cadran, hop, on a cette fois-ci l'information qui s'affiche. En l'espace d'une minute, on peut donner facilement avec de la 3D déjà des éléments de contenu, on va dire, pour s'approprier un peu un savoir. Ça, c'est ce qu'on a fait au niveau d'un musée qui a des maquettes de systèmes d'échappement. L'échappement, c'est cet ensemble qui laisse échapper la force et on a un régulateur qui est au-dessus. Ce type de mécanisme, c'est tout petit. Et pour arriver à expliquer à un élève comment c'est pas toujours simple. Là, pareil, on se rend compte qu'uniquement en mettant des pièces en couleur et des autres en les laissant en noir et blanc, on arrive à comprendre de quoi on parle. Ce qui veut dire que si on met les mots en anglais ici, ben, on parlera en anglais. Et une fois qu'on a notre modèle 3D, on va pouvoir en extraire des points de vue en supprimant telle ou telle pièce pour obtenir des images qui ne seraient absolument pas possibles avec une caméra sans passer par des effets spéciaux hyper compliqués. Et là, l'élève à qui on explique le fonctionnement avec un truc comme ça, il le comprend tout de suite. Le gros avantage également, c'est qu'on n'a pas besoin de lui faire manipuler un objet qui est dangereux. Ça, c'est le plus gros délire qu'on ait fait au Portugal. Alors, il faut que j'appuie ou pas que j'appuie ? Je vous laisse faire, je ne veux pas prendre la responsabilité. Les Portugais avaient deux magnifiques horloges qui faisaient 25 tonnes chacune. Et chacune de ces horloges datait de 1730. Une horloge carillon, c'est en gros, c'est une boîte à musique XXL. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai... Ça charge ? Bon, ben ça charge. Aucune documentation technique. L'une à l'arrêt depuis les années 50, l'autre depuis les années 80. Donc ça veut dire qu'il n'y avait même pas la mémoire de quelqu'un qui pourrait dire « je l'ai vu tourner, on l'a remonté de cette façon-là, etc. etc. » Donc ce qu'on leur a proposé, c'est avant démontage, vu la taille des pièces, à l'époque on ne maîtrisait pas encore, comme on est en train de le faire maintenant, la technique scanner. Donc pendant 18 mois, je passais une semaine par mois à venir avec des maîtres de couturière, avec... des pieds à coulisses, des réglettes, etc. Je prenais les codes de toutes les pièces et arrivé à l'atelier, à Lyon, j'ai quelqu'un qui, à partir des dessins que je lui avais faits, créait la bibliothèque de pièces jusqu'à l'assemblage complet. Et grâce à cet assemblage, on a pu expliquer à nos collègues portugais comment fonctionnait le mécanisme, mais surtout comment le démonter. On leur a fait un tutoriel de démontage. Allons-y la suite, c'est pas grave. On leur a fait un tutoriel de démontage sur tablette tactile. Donc chaque fois qu'ils appuyaient, ça faisait apparaître en rouge la pièce qu'il fallait enlever, sachant que les gens qui allaient intervenir dessus n'étaient pas horlogers, puisque la plus petite des roues, elle fait 85 kilos. Donc on avait plutôt en face de nous des ferronniers. Donc moi, je les encadrais, parce que quelquefois, ils me faisaient un peu peur quand je voyais comment ils manipulaient les pièces. Mais ce que j'ai pu constater, qui était vraiment génial, c'est qu'au début, je me suis dit... Je ne vais pas être bien reçu. Pourquoi est-ce qu'on a été chercher un sachant français ? Nous, Portugais, on ne saurait pas réparer notre horloge, etc. Bon, le premier truc qui a joué, c'est qu'ils ont vu que j'étais habillé aussi salement qu'eux dans le chantier, parce que dans un chantier comme ça, faut pas y aller en smoking, c'est clair. Vous avez des godasses de sécurité, vous avez des tenues, etc. Et puis, ils ont vu que j'avais les mains aussi sales qu'eux. Et notre tablette tactile, on l'a fait tout de suite en trois langues. En français, en anglais et en portugais. Et le gros avantage de ces supports, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde les connaît. Donc tout le monde fait ça avec son doigt, qu'il soit manœuvre ou qu'il soit Bac plus 15. Donc la tablette, c'est un outil de médiation, je n'avais jamais mesuré ça, qui est génial, parce que tout le monde en a. Et à partir du moment où on utilise le même outil, on partage un peu le même savoir. Un élément de lien génial. Et puis il y a le traducteur à la con de Google, mais qui fait que quelquefois, on rigole bien parce qu'on pense qu'on parle de la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Mais ça fonctionne quand même relativement bien. Okay. Chronovision, ça, c'est le projet qu'on avait lancé en 2020. Bonne idée de faire ça au moment du Covid. Ça m'a coûté beaucoup de sous. Et on a été obligé un peu de lever le pied. L'idée, c'était de voir cette fois-ci comment on pouvait balancer nos modèles 3D dans des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Le problème, c'est que tout ce qui était casque en 2001, c'était pas connu de fournir. Donc, ça n'a pas débouché sur grand chose. Sauf que, peut-être que les choses sont pas si bien finalement. Voilà. Et en 2020, j'ai eu la chance de rencontrer Constantin Protasov, qui est donc un des vice-présidents de l'Université Grenoble-Alpes, dont on parlait tout à l'heure, et dans le cadre d'un projet qui s'appelle COLEX. Voilà. Les universités s'étaient vues répartir la sauvegarde du savoir. L'université de Grenoble avait récupéré l'italien et hop, on va essayer avec, voilà, l'italien et la physique. Et Constantin est prof de physique, donc avec une magie géniale, Constantin m'a dit, écoute, moi on m'a dit qu'il fallait que je sauvegarde la physique. L'horlogerie, c'est de la mesure du temps. La mesure du temps, c'est de la physique. Je viendrais bien m'amuser avec toi à sauver l'horlogerie. Et à partir du moment où vous avez un vice-président d'université qui décide qu'il va venir s'amuser avec vous, ça facilite beaucoup les choses. Donc la bibliothèque universitaire a commencé à travailler avec nous. Puis le CNRS avait une demande de l'État qui lui avait dit bah, « Vous pourriez nous faire un truc qui rendrait interopérable des bases de données ?»« Ouais, d'accord, on travaille sur quoi ?»« Sur ce que vous voulez. » Et puis Constantin leur a dit hey, « J'ai mon pote François, là, il a peut-être des idées pour vous. » Donc plus je leur demandais de me mélanger des choses, plus tous ces chercheurs, ils avaient la banane, mais d'une façon absolument incroyable. Donc aujourd'hui, on mélange du son, du texte, de l'image. Dans le fond de la salle, là, il y a Mylène qui est venue avec nous déjà faire des captations sonores sur différents... Et l'idée, c'est de créer un outil de sauvegarde, mais qui dépasse complètement largement tout ce que j'aurais pu imaginer au début, puisque bah, typiquement, moi, je ne savais pas ce qui était possible de faire ou de ne pas faire. Donc plus le projet avance, plus on travaille sur trois axes, la partie R&D, la partie production de contenu, et puis la partie enseignement. Donc on s'est doté d'un comité de pilotage qui est un vrai comité de pilotage, qui n'est pas une liste de noms pour faire bien dans un document. Tous ces gens-là se réunissent une fois par mois en visio depuis 4 ans maintenant, pendant 2 heures. Donc c'est une vraie élaboration d'un projet collectif. Et chacun va essayer d'intégrer son école, ses élèves dans des développements. Et en gros, notre projet sert de terrain de jeu maintenant à tout un tas d'élèves de tout un tas d'écoles différentes. Hop là. Au niveau de la R&D, ben justement, voilà les structures typiquement avec lesquelles on travaille. On travaille également sur l'archivage. Et on a pu, avec tous ces gens, essayer de définir quel type de fichier il fallait sauvegarder, comment le sauvegarder, de quelle façon. On a été obligé de faire un boulot que moi, artisan, j'aurais jamais imaginé à la base. On est descendu maintenant, quand on fait une modélisation 3D, au niveau des métadonnées de la plus petite des pièces que l'on dessine. Et après, le logiciel avec lequel Omeka S, le logiciel avec lequel le CNRS est en train de nous faire le site, va permettre de faire un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Au départ, je dessinais une pièce, je la mettais dans la bibliothèque, je créais un assemblage, et puis après, je demandais à quelqu'un de me faire une animation de mon assemblage pour voir telle et telle chose. Là, maintenant, on va arriver, le modèle 3D sera mis dans la visionneuse, et la visionneuse verra non pas mon modèle, mais tout un ensemble de métadonnées qui seront accessibles directement l'une par une ou en partie, etc. Donc on va avoir une puissance de consultation qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'aurais imaginé. On s'amuse, puisqu'il y a des laboratoires, on s'amuse à faire des tests de tout un tas de trucs. Donc là, on est allé voir, par exemple, à l'intérieur d'une montre sans la démonter. Bon, alors elle est encore un petit peu radioactive pour quelques temps, mais c'est pas grave, c'est la mienne. Mais l'avantage, c'est que typiquement, on a une problématique en horlogerie. Il y a, au niveau de la montre, typiquement, on a au musée du temps à Besançon, une montre magnifique et une des plus compliquées, elle a 1100 et quelques pièces. Un jour, il faudra l'entretenir. On n'a pas de plan. Qui la démonte? Comment est-ce qu'on fait? Donc l'idée, c'est de passer par ces systèmes-là qui vont permettre de nous donner toutes les couches, toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur avant d'y mettre les doigts. On a la chance, moi, il y a 15 ans maintenant, j'avais piraté le logiciel de Dassault Systèmes qui s'appelle SolidWorks pour faire mes premiers dessins. Et, parce qu'à l'époque, ça coûtait 12 000 euros et moi, je n'avais pas du tout cette somme-là, quoi. Donc il y en a un qui était tombé du camion devant l'atelier, ça marchait. Sur un salon des musées, j'ai eu la chance de rencontrer David Naon, qui est un type qui travaille chez eux, que certains de vous connaissent peut-être, qui est venu voir ce que je faisais, qui était tout content. Il me dit « C'est SolidWorks ». J'ai dit « Oui, oui, c'est SolidWorks ». Donc il était très... Et après, je lui expliquais, je lui dis « Bon, par contre, la licence, je ne l'ai pas ». Ah, oui, mais en même temps, c'est vous qui êtes venu me chercher, hein. Oui. Bon, bah, écoutez, c'est bien ce que vous faites. Continuez. Si on vous ennuie, vous m'appelez. Donc j'ai continué de le tenir au courant. Et en 2020, cette fois-ci, c'est les équipes de Dassault Systèmes qui m'ont appelé en me disant « Bon, François, on a vu ce que vous êtes en train de faire sur Internet. Il faut qu'on vous aide. » Donc moi qui avais piraté pour 12 000 euros de logiciel, maintenant, ils me mettent à disposition du projet chaque année 600 000 euros de licence que l'on peut prêter à toutes les structures qui ont envie de travailler avec nous sur cette problématique. Donc on leur prête des logiciels complètement... et tout le personnel de Dassault Systèmes peut travailler à 10% de son temps sur nos projets. Pourquoi ? Parce que je pense qu'eux, au travers de notre application, ça leur permet de valoriser leur action sur le patrimoine, etc. Puis comme disent mes filles, je suis devenu leur dealer. Je fais rentrer le logiciel dans les écoles d'ingénieurs, etc. Une fois qu'ils ont pris l'habitude, mais ce partenariat est vraiment très, très intéressant. Et surtout, il est fait dans une logique que j'aurais jamais pu imaginer. Moi, je voulais que ce soit open source, que ce soit open access. Donc je me voyais mal travailler avec un fichier propriétaire, etc. Donc première chose, l'accord que l'on a signé font qu'ils ne sont propriétaires de rien du tout. Ils nous mettent à disposition des outils. On peut en faire ce qu'on veut, on peut les prêter à qui on veut, on est propriétaire de tous les résultats. Donc c'est quand même intéressant. Tac. Et au niveau de nos contenus, on a donc maintenant du modèle 3D. On a des sons, puisqu'on s'est rendu compte en travaillant avec Mylène, en horlogerie, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a une partie du dépannage qui se fait à l'oreille. Mais comment est-ce que vous expliquez le bon tic-tac du mauvais tic-tac ? Il ne faut pas qu'il soit syncopé. D'accord ? Celui qui fait de la musique, il voit ce que c'est syncopé. Mais si on a un enregistrement à lui faire entendre, ça devient tout de suite d'une clarté totale. Et puis, d'un point de vue complètement immersif, on a tous déjà vu des films où il y a un type qui est dans un bateau, et puis il parle, et quand il passe dans l'eau après, on a sa voix qui a un son qui est différent. Ça nous aide dans notre expérimentation. Avec Mylène, on est allé faire des captures à Vaux-le-Vicomte, qui est mon centre d'essai, parce que je les connais depuis des années. Donc chaque fois que j'ai un truc à essayer, je leur propose, et ils me disent très très gentiment oui. On a enregistré là-bas le son des pendules 18e qui sont dans le chalot 18e, meublé en 18e. Donc on pourrait tout à fait imaginer que le son qu'on entend, c'est celui du 18e. Et donc, quand on va, nous, après, faire de la médiation culturelle sur ces types d'horloges, on va avoir un son qui sera le son extérieur de l'horloge quand on sera devant. Et quand on entrera dedans, grâce à la magie des appareillages que sait faire Mylène Pardoen, on va avoir le son de l'intérieur du mécanisme. Donc ça va nous donner des... Alors on a juste un souci, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à caler le son précisément sur des images qui, si elles sont numériques, peuvent être accélérées ou raccourcies, ou ralenties, je veux dire, pour expliquer le... Donc là, on a encore... On n'a pas tout trouvé encore. Ah, merde. Bon. Au niveau des archives horlogères, plus ça va, plus le projet maintenant plaît. Typiquement, samedi, on part aux États-Unis pour aller faire des tests de scanner au musée de l'Association nationale américaine d'horlogerie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se dire que quand on fait un scan, on va récupérer un nuage de points. Ce nuage de points, il est hyper génial si on veut faire un artefact du masque de Ramsès II, par exemple. Mais nous, on veut avoir quelque chose qu'on va démonter. Et ça, le scanner, il ne sait pas faire. Donc on est en train de travailler avec un élève de Centrale Nantes qui fait une thèse sur une IA à qui on est en train d'apprendre une bibliothèque de pièces d'horlogerie. Et l'idée, c'est que dans quelques mois, quand l'IA voit le scan, elle dise « Ah non, non, ce n'est pas un nuage de points, c'est un barillet ». Plus une roue de huitaine, plus une roue de centre, plus une roue de moyenne, plus une roue d'échappement. Et puis que dans quelques temps après, elle puisse dire « Ah ben, je vois le barillet, la roue de centre, la roue de moyenne, la roue d'échappement. Ah, moi d'après mes tables, là il y a un truc qui s'appelle roue de huitaine. Et d'après vos numérations de rouage, elle doit avoir telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. » L'idée à terme, c'est qu'on puisse effectivement passer directement du scan au modèle démontable. Donc ça intéresse plein de gens, ça intéresse plein de laboratoires. On est sur un truc qui est open access, donc les gens viennent travailler avec nous. Hier, on en discutait avec les équipes de Dassault, ça les intéresse au plus haut point. Eux-mêmes disent non, on n'est pas encore prêt. Mais je vous dis, je suis un gamin dans un magasin de jouets. Et les musées avec lesquels on travaille... Le plus symbolique, c'est celui-ci, c'est le Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la Mecque. Et avec Constantin, il y a 4 ans maintenant, quand on allait leur proposer le projet, en leur disant « est-ce que ça vous paraît cohérent ?» Est-ce que non seulement ils nous ont dit oui, mais au bout de 10 minutes, ils nous ont dit « alors votre classement par type de mécanisme, là, nous en Suisse, on a la Neuchâteloise, on pourrait s'en occuper d'ailleurs. » Donc maintenant, ils sont dans notre comité de pilotage. Et ensuite, au niveau de l'enseignement, on va interagir aussi bien avec des élèves du secondaire que du supérieur. C'est-à-dire que les logiciels nous permettent maintenant d'aller en gros passer des commandes à telle ou telle école en leur disant bah, « Tiens, est-ce que cette année, vos élèves pourraient travailler sur la modélisation de tel type de mécanisme ?» Donc on a un ingé 3D qui vient, qui aide à installer le logiciel, qui leur explique comment il fonctionne. Et on a créé une codification qui est maintenant reprise par toutes les structures qui font de la modélisation 3D en horlogerie, pour que les pièces soient appelées pareil, que les arbres de construction soient faits pareil, pour un problème d'opérabilité. Et puis, comme on va chercher les métadonnées de chacune des plus petites pièces, il faut qu'on soit vigilant sur cette construction. Donc, du projet de bricolo-bricolette que je faisais dans mon atelier, on est arrivé à un truc maintenant qui est avec une méthodologie absolument incroyable. Ce qui est très intéressant, parce que ça va permettre à tous les gamins de nettement mieux comprendre à quoi sert tout ce qu'on leur explique et ce pourquoi on les emmerde. Il faut faire ça de telle et telle façon. Et si le gamin, après, on lui explique, ouais, mais tu comprends, si tu ne le fais pas comme ça, il n'y aura pas l'interopérabilité avec telle chose et telle chose. On ne lui donne pas une contrainte, on le fait participer à quelque chose de global auquel il est fier d'être. Donc ça modifie complètement les paradigmes. Et ensuite, tous nos élèves, qu'ils soient dans des écoles d'horlogerie ou des écoles de méca, quand ils utilisent un logiciel, normalement, ils font de la conception. Nous, on leur apprend à faire de la rétro-conception. Donc, ils voient en plus le logiciel sous un angle un peu différent. Et là aussi, ils comprennent nettement mieux. Et puis, quand vous avez les gamins qui, à la fin de l'année, vous amènent leur 3D, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et alors, nos écoles supérieures, typiquement, le dernier bébé que j'ai imaginé, c'est une panothèque. Alors l'idée d'une panothèque, c'est de se dire, on commence de mettre en mémoire les mécanismes anciens, on va expliquer comment les monter, les démonter. Le problème, c'est que le gamin, c'est pas pour autant qu'il aura gagné l'horlogerie infuse. Donc une fois qu'il l'aura démonté, remonté, ça marche pas, comment est-ce qu'il fait? Donc l'idée, c'est de recueillir auprès d'un certain nombre d'horlogers qui ont déjà un peu de bouteille. On est en train de faire ça sur un type de mécanisme très simple, très bête, qui est l'horloge comtoise. Quelles sont les pannes que vous connaissez? En fonction de toutes ces pannes, on fait un arbre de décision. Et là, les élèves de Grenoble INP sont en train de travailler sur cet arbre de décision pour qu'après, ils en tirent un logigramme qu'ils vont ensuite mélanger avec mes modèles 3D pour qu'on arrive à une assistance au dépannage en réalité virtuel ou augmenté, comme ça les amusera. Et ce qu'on est en train de faire sur ce petit type d'horloge, après, ça pourrait être dupliqué à tous les autres mécanismes de notre base de temps, et puis à la montre aussi. Voilà. Donc, voilà nos terrains de jeu. Et ça, c'est le cas concret de ce qu'on a fait avec un musée, en s'appuyant sur des financements de la DRAC, justement dans le fameux PNV dont on parlait tout à l'heure. Donc ils avaient une horloge qui était dans cet état-là, voilà. On a fait dessus tout un tas de tests, on a essayé de faire de la photogrammétrie, ça c'est la modélisation 3D finale. Là c'est l'horloge maintenant qui est exposée dans un petit musée. Et puis on a une vitrine holographique qui va permettre de projeter l'horloge avec une... C'est pas de l'hologramme, c'est une... On a une impression de 3D qui est quand même nettement plus agréable qu'un simple papier. Ça a un peu d'intérêt. Hop, voilà. Et donc ça, c'est une petite partie des gens qui travaillent avec nous. Mais chaque fois, les documents sont... ils auraient besoin d'être mis à jour à peine, on vient de les faire. Voilà. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup, et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et qui ouvre beaucoup de perspectives. L'idée sur le son est extrêmement intéressante. En tout cas, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont dans beaucoup de directions.
Il y a tellement de trucs que ça devient tentaculaire.
On pourrait prendre une question avant dans la pause midi. Oui. Est-ce qu'il faut toujours mettre les mains à la fin ?
Alors, l'idée de la panothèque, on en discutait justement avec les élèves, l'idée, c'est d'y mettre le moins possible les mains. C'est-à-dire que typiquement, et moi, je me suis rendu compte de ça, à 63 ans, je faisais des grosses conneries. Aucune procédure claire. La première des choses, c'est voir si les aiguilles tournent. Et au bout d'une ou deux corrections, on va savoir si on a besoin de démonter le mécanisme et de mettre les mains dedans. Et le bête réflexe de l'horloger, c'est que 9 fois sur 10, il va avoir tendance à penser que l'horloge, il faut la réviser. Donc il va la démonter. Et en la démontant, il va détruire quelque part les causes de panne qu'il aurait pu voir. Donc cette méthodo, elle est hyper importante. Donc non, on n'est pas toujours obligé d'y mettre les doigts. Et en revanche, ce qui est évident, c'est que arrivé à un certain moment, moi c'est pour ça que je me passionnais sur la pendulerie et non pas sur la montre, c'est qu'en pendulerie et en horlogerie, les pièces, il n'y a pas de fourniture, vous les refaites. Donc il y a un moment donné où vous allez être obligé de rajouter une dent sur une roue, de replanter un pivot. Donc il faudra passer une intervention qui nécessite, on va dire, un haut degré de technicité. Mais avant de passer par ces opérations-là, il y a tout un tas d'opérations qui peuvent être faites d'une façon hyper facile par des gens qui ont toutes les explications qu'il faut.
Merci beaucoup encore.